Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. Ils sont partout. Dans les ustensiles de cuisine, les vêtements imperméables, dans les cosmétiques, les peintures, les revêtements, les emballages et même certains médicaments. On les appelle les PFAS, les polluants éternels, des substances chimiques qui s'installent dans le sang, dans les sols, dans les océans et qui ont des effets nocifs pour la santé. Un rapport européen évoque même des risques de cancer, de malformations, des fœtus. On va en parler dans un instant. Aux États-Unis, ça fait des années que le scandale a éclaté et a poussé des grandes firmes à indemniser des victimes. En France, les écologistes ont obtenu le vote aujourd'hui en première lecture d'une loi pour limiter la diffusion de ces polluants éternels, alors que des entreprises comme Seb et ses poils anti-adhésifs bataillent contre une législation qui mettrait en péril cette entreprise française. Et c'est dans ce contexte qu'un autre scandale éclate aujourd'hui, celui de l'eau en bouteille. Polluants éternels, le nouveau scandale sanitaire, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Philippe de Sertine, vous êtes professeur à l'université IAE Paris-Panthéon-Sorbonne. Vous êtes directeur de l'Institut de Haute Finance, président du Comité 21. Et puis, je rappelle votre livre, Le Grand Basculement, publié chez Robert Laffont. Avec nous ce soir, Émilie Torgemène. Vous êtes grand reporter en charge des questions environnementales et de société au journal Le Parisien aujourd'hui en France. À la une de votre journal aujourd'hui, polluant éternel, peut-on encore boire de l'eau du robinet? Et puis, c'est vous qui signez le dossier spécial sur ce sujet avec Nicolas Béraud. Karine Jacquemart est avec nous. Vous êtes la directrice de Foodwatch France. Je rappelle que Foodwatch avait porté plainte dans le scandale de Buitoni, Kinder et contre Nestlé Waters en février dernier. On va en reparler. Enfin, Gérald Kirzek, vous êtes médecin urgentiste, directeur médical du site Doctissimo. Je cite votre livre Des rôles, leçon d'anatomie, publié chez Albin Michel. Bonsoir à tous les quatre.
Bonsoir.
Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, Émilie Torgemène, pour avoir une définition. On va beaucoup en parler ce soir. Alors, ça s'appelle les PFAS. On le prononce à l'américaine et on parle de polluants éternels. De quoi parle-t-on ?
Alors en fait, ce sont des composés chimiques qui sont composés de chlore essentiellement et qui n'existent pas à l'état naturel. Leur spécialité, c'est donc qu'ils sont très résistants. C'est pour ça que l'industrie les a utilisés, parce qu'ils sont résistants au feu, parce qu'ils sont résistants à l'eau, ce qui leur permet de faire des poils anti-adhésifs ou du textile anti-déperlant, donc pour tout ce qui est imperméable. Donc ça a l'air assez magique comme ça, mais on les appelle polluants éternels parce qu'en fait ils mettent un temps non pas infini mais très très long pour se dégrader, pour disparaître de l'environnement.
Et il y a une actualité sur ces polluants éternels puisqu'il y a eu un débat aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur le sujet porté par les écologistes avec une proposition de loi.
Absolument, l'idée c'était en fait d'interdire par usage, donc quatre premiers usages qui étaient la cosmétique, le textile, il va m'en manquer un, et le ski. Mmh. Et le ski, ça a l'air anecdotique.
Pour farter les
skis. Exactement. Mais ça ne l'est pas du tout, parce qu'en fait, on le met sous les skis pour les farter, qui touchent la neige fond, tombe dans l'eau, tombe dans notre nappe phréatique, ouais. Et on revient à notre dossier du jour. Un des gros problèmes de ces PFAS, de ces polluants éternels, c'est la pollution de l'eau, de notre ressource en eau, et donc de l'eau qu'on boit. Mmh. C'est comme ça que nous, les humains, on est contaminés.
Philippe de Sertine, c'est un sujet qui concerne certaines grandes entreprises françaises. On parle de Seb, qui s'est manifesté devant l'Assemblée nationale, on va le voir dans un instant, et qui a mobilisé ses salariés en disant, attention, derrière, il y a des emplois et une industrie. Parce qu'évidemment, c'est un produit qui est utilisé pour les poils adhésifs.
Alors bien sûr, là, on parle des utilisateurs, industriels utilisateurs, mais on a aussi en France des industriels producteurs qui sont concernés aussi, toute l'industrie de la chimie autour de Lyon. Donc Lyon, d'ailleurs, la ville de Lyon, la communauté urbaine de Lyon, actuellement s'est lancée dans un procès par rapport à deux grandes sociétés françaises et d'origine japonaise sur la production. Donc effectivement, on est avec quelque chose dont on a le sentiment que ça peut devenir absolument gigantesque.
Il y a entre 12 et 20 usines de production de ces substances en Europe.
En Europe et en France notamment. Ouais. Hein, donc avec éventuellement alors, l'utilisation et les contaminations du point de vue de l'eau lorsque vous produisez ces différents éléments. C'est-à-dire que c'est en réalité quelque chose de très complexe qui signifie, entre parenthèses, qu'en 2019, on a eu une étude de l'agence française en disant quelles sont les traces de PFAS, donc PFAS, dans les humains français. C'est simple, 100% sont concernés.
100%.
99% dans le monde. Donc ça veut dire que les enfants, les bébés, les personnes âgées, et évidemment, on va dire, toute personne est, on va dire, contaminée par ces éléments avec des conséquences que la science ne mesure pas encore complètement.
Effectivement, il y a une étude qui a été menée récemment sur 152 personnes, dont des personnalités bien connues, vous allez les voir à l'antenne, comme Nagui, Mélanie Thierry, etc. On leur a tous pris une mèche de cheveux, et puis on est allé voir ce qu'il y avait dedans. Eh bien, tous, vous l'avez dit, étaient contaminés, y compris, et c'est là que ça devient très intéressant, par des PFOA, notamment qui sont interdits depuis 2009, des substances qui sont interdites, les PFOS qui sont interdites depuis 2020. Et tout cela montre ce que vous disiez, c'est-à-dire que ça reste très longtemps dans la nature. Voilà pourquoi on parle de pollution éternelle. C'est un sujet qui est dans le débat public depuis longtemps en France.
Alors dans les milieux experts, oui. Dans le domaine du grand public, c'est plus récent. Mais on a vu qu'aux États-Unis, c'est connu depuis longtemps. Et puis surtout, l'avocat qui a défendu les victimes a gagné parce qu'il a été prouvé que c'était dangereux pour la santé. C'est un scandale de santé publique à très grande échelle et qu'on retrouve dans les sols. On va en parler avec les eaux minérales censées être pures. On retrouve de ces PFAS même dans ces eaux minérales profondes. Mais on les retrouve aussi dans des pesticides qui sont utilisés. Donc ça veut dire qu'il y a une étude qui a été publiée là en février 2024 par le PAD, qui est un réseau européen sur les pesticides société civile, qui a montré en fait cette contamination, notamment des fruits et légumes. Donc en fait, on les retrouve dans les pesticides, on les retrouve dans l'environnement, on les retrouve dans les sols, donc on les retrouve après dans notre alimentation, on les retrouve dans la majorité des emballages alimentaires. Et surtout, ce qui est très frappant et scandaleux, pour tout dire, c'est que face à cette contamination à grande échelle, un problème de santé publique globale, on voit l'exemple de toutes les gesticulations des lobbies que l'on connaît par cœur.
Là, aujourd'hui encore, vous diriez
ça ? Bien sûr,
ça,
parce que en fait, c'est très classique.
Ce qui s'est passé.
On pourra y revenir, mais typiquement, premièrement, ils cherchent à créer du doute, c'est-à-dire qu'en gros, là, ce qu'on voit, c'est que les arguments et contre-arguments, c'est sûr, alors les polymères simples, mais polymères, peu importe, ne rentrons pas là-dedans, en fait. Contentons-nous, vous connaissez ces études, contentons-nous de regarder les études scientifiques et de s'appuyer là-dessus. Donc, on cherche à créer du doute, on cherche à faire du chantage à l'emploi, ce que Seb a fait. Donc, écoutez, si la seule façon d'avoir des emplois, c'est des emplois qui contaminent et les salariés, et la population, et l'environnement, je crois que ça n'est pas la bonne solution, d'autant plus que Seb, à ma connaissance, fait des poils sans ses revêtements. Donc ça veut dire qu'ils sont capables de le faire. Donc,
il dit les produits Tefal, comme tous ceux de Seb, ne contiennent pas de PFAS considérés comme nocifs pour la santé ou l'environnement par les autorités sanitaires.
La charge de la preuve, car on est en Europe, il y a le principe de précaution, la charge de la preuve, elle est sur eux. Donc dans ces cas-là, qu'ils le prouvent. Et surtout qu'on ne prenne pas, et c'est l'autre agissement des lobbies, qu'on ne prenne pas les PFAS un par un. Il en existe des milliers, et c'est bien ce qui est demandé par les scientifiques et les experts, c'est que si on court un par un peu comme les additifs alimentaires, vous voyez. Si on court un par un et qu'on met des années à en interdire un et que pendant ce temps, ils en mettent un autre, on n'y arrivera pas. Et le problème, c'est que la santé publique, l'exposition au risque reste majeure.
Alors, on y vient justement à la santé avec vous, Gérald Kirzek. Est-ce qu'il y a une unanimité concernant les risques que vont représenter ces polluants éternels sur la santé?
Je crois qu'on ne peut plus dire qu'il y a de doute. Mais même s'il y avait un doute, en vertu du principe de précaution, c'est la santé publique qui devrait primer. C'est ça le principe de précaution. Il existe dans d'autres domaines, on ne comprend pas bien pourquoi il n'existe pas dans ce domaine-là. D'autant que là, on n'est plus sur le doute. C'est-à-dire que les liens entre les PFAS et les maladies sont avérés. Alors, pas toutes les maladies et pas tous les PFAS, encore que, mais les maladies avérées, c'est le cancer du sein. Vous le dites très bien dans l'article du Parisien, le cancer du sein, l'augmentation du cholestérol, ce sont des choses qui sont avec un lien de causalité. On n'est pas sur une corrélation, on est sur une causalité quasi directe. Les plus petits poids de naissance, donc on voit bien qu'un enfant qui naît avec un plus petit poids de naissance, on imagine bien, si on tire le fil, que c'est le développement de l'enfant, le neurodéveloppement de l'enfant qui potentiellement va être affecté. Et puis, le quatrième lien avéré, c'est sur le système immunitaire. C'est la moindre réaction, par exemple, de réaction immunitaire quand on vous fait un vaccin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'immunité, c'est capital. On l'a bien vu avec toute la période du Covid. L'immunité, le système immunitaire et l'inflammation qui peut être générée ou pas dans le corps humain, eh bien ça, c'est capital sur tout le métabolisme du corps humain. Ce qui veut dire que ça, c'est les risques avérés. Mais si on tire un peu, et en termes de logique, on voit bien qu'il y a un gros point d'interrogation, pour ne pas dire un lien de corrélation très fort, je ne parle pas de causalité, mais une corrélation très forte avec l'infertilité, avec le diabète, avec toutes les maladies civilisationnelles, avec le cancer. Reprenez encore ces derniers temps, on s'étonne. Alors, ça a été l'affaire de Kate Middleton, qui dit, mais comment on peut avoir un cancer si jeune? Et tous les collègues cancérologues vous le disent. On a une explosion de cancer chez des gens plus jeunes. Alors, quelle est la cause? C'est pas que les PFAS, mais les PFAS, plus les perturbateurs endocriniens, plus un certain nombre de polluants qu'on peut avoir, mais y compris des polluants qu'on respire, des polluants qu'on mange, tout ça, c'est multifactoriel et c'est probablement ça qui va jouer sur le corps humain et qui fait une explosion des maladies qu'on n'avait pas vues avant.
Quand vous dites c'est avéré, on est dans une époque où plus personne ne croit rien. Quand vous dites c'est avéré, il y a des études scientifiques aujourd'hui qui font le lien que vous établissez à l'instant.
Alors, les études scientifiques sur ces sujets environnementaux, déjà, elles sont récentes, hein, parce que le téflon, c'est les années 30-38, je crois que ça a été inventé. Donc, le temps que ça soit diffusé, que ça redescende malheureusement dans la nappe phréatique, etc., et puis qu'on puisse faire des études qui sont forcément rétrospectives en termes de méthodologie, on ne peut pas exposer une population au téflon et puis l'autre population l'exposer. Donc, on ne peut que regarder a posteriori. Donc, c'est toujours très compliqué de mettre en évidence des liens avec les produits. Mais là, sur les maladies dont on parle et quand on dit avéré, oui, le lien il est prouvé scientifiquement, absolument.
Et pourtant, ces produits sont partout dans notre quotidien. On va y revenir parce qu'effectivement, vous l'avez dit rapidement tout à l'heure, si en France, c'est porté uniquement par certains militants et certains écologistes, comme c'est le cas aujourd'hui à l'Assemblée, aux États-Unis, c'est un scandale sanitaire qui a explosé il y a de nombreuses années. En tout cas, c'est une bataille qui a débuté à l'Assemblée. Les écologistes tentent d'arracher une interdiction pour ces polluants éternels qu'ils qualifient de poison du siècle. Il y a eu un vote qui a été effectué aujourd'hui en première lecture. On le retrouve dans les poêles anti-adhésives, Tefal, fabriqués en France. L'entreprise Seb a envoyé ses salariés, on l'a dit, manifester devant l'Assemblée, estimant que 3000 emplois étaient menacés par ce texte. Laura Rado et Erwan Lilion.
Les polluants éternels à la une de la presse aujourd'hui. Mais surtout présents partout dans notre vie. Dans notre eau, nos cosmétiques, nos habits, nos emballages alimentaires, mais aussi nos casseroles et nos poêles anti-adhésives. Les PFAS, ces milliers de substances chimiques utilisées par l'industrie et reconnues comme toxiques pour l'être humain. Un problème de santé publique dont l'Assemblée nationale s'est emparée aujourd'hui.
C'est avec gravité que je vous soumets ce matin une proposition de loi sur les PFAS. Ces substances que vous connaissez peut-être sous le nom de polluants éternels. Je vous propose donc de prendre
le poison du siècle, selon ce député écologiste qui fait de leur interdiction son cheval de bataille.
Les PFAS, c'est une grande famille de substances chimiques et ils ont une caractéristique qui sont extrêmement persistants. Et les scientifiques disent que cette persistance, elle suffit à les classer comme des substances préoccupantes. Quand elles sont dans l'environnement ou dans nos corps, en fait, on ne s'en débarrasse pas et elles sont liées à un certain nombre de pathologies. Certains types de cancers, du cholestérol, un faible poids à la naissance pour les enfants, l'infertilité.
Malgré l'alerte de nombreux scientifiques, le gouvernement a obtenu d'exclure les ustensiles de cuisine de la loi adoptée cet après-midi. Argument économique à l'appui.
On parle beaucoup de la fameuse poêle Tefal, la poêle anti-adhésive par exemple. Aujourd'hui, il y a énormément d'indications qui montrent que le PFAS aujourd'hui utilisé par Tefal, par Seb, pas celui qu'ils ont arrêté d'utiliser il y a plus de 10 ans, il est non dangereux. On attend évidemment la preuve de ça, mais le risque aujourd'hui d'interdire ce type de produit, c'est de mettre en danger, alors cette fois-ci, oui, des emplois industriels, sans être convaincu en aucun cas que ce produit est dangereux.
Aucun fondement scientifique. C'est aussi l'argument du patron de Seb, propriétaire des poêles Tefal. Le groupe a d'ailleurs mis la pression hier aux députés en envoyant 500 de ses employés manifester sous leurs fenêtres contre la loi. Une journée payée, entièrement prise en charge par la direction. Le combat contre les polluants éternels a débuté il y a plus de 25 ans aux États-Unis. La cible, le PFOA, une autre substance utilisée pour fabriquer du téflon. Un avocat, Rob Bilott, est parvenu à faire condamner le géant industriel DuPont, responsable d'une contamination massive de l'eau. Son histoire a été adaptée au cinéma en 2020 sous le titre de Dark Waters, incarné par l'acteur Mark Ruffalo.
J'ai d'abord lu cette histoire dans le New York Times. Le titre de l'article, c'était « L'avocat qui est devenu le pire cauchemar de DuPont », et c'est Rob Bilott.
Au début, on pensait que ça ne touchait qu'une seule ferme et qu'une seule famille. Et puis, on a réalisé que ce polluant s'était disséminé dans l'eau de tout le quartier. Et plus on fouillait dans les documents, des documents que personne n'avait vus avant, plus on a compris que c'était dans l'eau de tout le pays, dans le monde entier, et même dans le sang de tout le monde.
Reconnu comme cancérigène, le PFOA est désormais banni, y compris en Europe. La Californie a même décidé d'interdire plus largement la vente de vêtements neufs contenant des polluants éternels à compter du 1er janvier 2025. Alors la France est-elle en retard? assurément pour Camille Etienne, elle-même auteure d'un documentaire sur le sujet. D'autant que la militante écologiste voudrait aller bien au-delà de l'interdiction.
On a les moyens techniques aujourd'hui de dépolluer l'eau, de donner à boire de l'eau qui ne soit pas contaminée. Par contre, ce qui a été émis dans le sol, ce qui a été émis dans l'air, ça c'est beaucoup plus difficile et surtout c'est extrêmement coûteux. Il faut qu'on fasse payer la dépollution à ceux qui ont pollué. Ça nous semble un peu logique en disant pendant des années, vous aviez les études qui montraient la toxicité, vous avez décidé de ne rien en faire et vous avez continué à émettre ces substances partout, en fait, dans l'atmosphère, dans l'eau, etc. et au final dans les corps des gens. Et donc c'est à vous de payer la dépollution.
La question des polluants éternels sera également posée aux 27 pays européens qui devront se prononcer en fin d'année sur leur interdiction.
On va revenir sur cette affaire, savoir si c'est une affaire européenne. La question de Thierry, va-t-on accepter docilement d'attraper des cancers au nom de la sauvegarde de l'emploi ?
Alors non, absolument pas en fait. En fait, qui voudrait accepter maintenant que c'est connu, que les études scientifiques sont là, qui peut accepter qu'on laisse disséminer ces substances absolument dans tous les secteurs, y compris dans notre alimentation, dans nos sols, et alors qu'en fait, on n'en a même pas besoin. C'est-à-dire que ça arrange quelques industriels, tous secteurs confondus, parce que ça rend des matières, voilà, ça n'accroche pas des crêpes, la bonne affaire, ou ça rend des matières un peu plus solides. Franchement, on peut s'en passer. Il est temps que l'intérêt général et la santé publique soient au centre. Et par ailleurs, ce chantage à l'emploi, il faut que ça s'arrête en fait. Parce que, encore une fois, si avoir des emplois, c'est avoir la domination d'un patron qui nous dit que le seul emploi qu'on peut avoir, c'est en produisant et en se contaminant avec des substances dangereuses pour la santé, ça ne marche pas.
Et vous voulez laisser entendre que les salariés eux-mêmes sont exposés ?
Ben là, c'est quand même ce qui semble être dit. Hein, ou alors, encore une fois, que Seb prouve le contraire. Mais les salariés sont exposés à une substance dangereuse au même titre que nous, on l'est dans l'environnement. Et par ailleurs, on avait en fait attrapé un autre lobby, celui des pesticides phytéïstes l'année dernière avec d'autres associations qui avaient fait ce chantage à l'emploi pour essayer de convaincre des parlementaires de ne pas voter une loi Egalim qui prévoyait d'interdire la production et l'export des pesticides interdits d'usage dans l'Union européenne. C'est totalement scandaleux. Et on les a pointés du doigt en disant, déontologiquement, vous ne respectez pas la règle en fait, de la précision. Eh bien, ils ont été attrapés par le président du Sénat qui les a mis en demeure. Donc, à un moment donné, il faut aussi ne pas les laisser faire et les mettre
face à leur... Là, ils ont gagné, hein.
Là, ils ont gagné.
À l'Assemblée, aujourd'hui.
Ils ont gagné aujourd'hui parce que, du coup, les ustensiles de cuisine ont été exclus. Et c'est scandaleux. Ces méthodes, les parlementaires ne doivent plus les accepter non plus. Et il faut remettre la santé publique au centre.
Et sur cette question du chantage à l'emploi, moi, j'étais à Rumilly, donc à proximité de cette usine, et dans l'usine Tefal. En fait, les salariés sont contaminés parce qu'ils habitent là. En fait, ce sont eux les premières victimes.
Les chiffres sont dingues hein, sur Rumilly. Pardon, je vous coupe, mais un des polluants éternels qui est interdit depuis 2020, je ne sais plus lequel c'est.
PFOA.
Voilà, PFOA a été retrouvé dans la nappe phréatique à 60% au-dessus de ce qui est tolérisé par l'Agence nationale de santé.
Dans deux des nappes phréatiques, la communauté de communes qui a été aidée, qui a eu plein d'argent, peut traiter l'eau d'une nappe, l'autre est toujours fermée. Donc ce sont des choses très coûteuses. Donc, juste pour dire, donc ces gens qui sont extrêmement anxieux, puisqu'ils l'ont découvert tardivement, on ne sait pas. Une des grosses questions, c'est depuis combien de temps est-ce qu'on est exposé quotidiennement ? On est en train de parler de l'eau potable, donc c'est tous les jours non-stop. Depuis combien de temps est-ce qu'on est exposé ? Et là, les salariés, ils habitent là, en fait. Donc, ce sont des riverains, ils ont les deux. C'est toujours un peu difficile, c'est victime et bourreau en même temps. Franchement, je comprends tout à fait qu'on aille défendre
son emploi, bien sûr.
Mais là, c'est vrai que c'est très compliqué comme situation. On les met vraiment dans une situation complexe.
Et malheureusement, les études épidémiologiques locales dans la région arriveront trop tard. C'est-à-dire que dans quelques années, quand les salariés vont s'apercevoir ou que dans le bassin de population, on va s'apercevoir d'un certain nombre de pathologies avec une augmentation en termes de fréquence, qu'on pourra peut-être, de manière rétrospective, raccrocher au PFAS, etc. C'est tout le sujet de cette pollution environnementale avec, ça a défrayé la chronique plusieurs fois, on voit bien des foyers qui s'allument sur le territoire et que c'est uniquement 20 ans après qu'on arrive à faire le lien avec quelque chose parce qu'on n'avait pas la connaissance. Là, on ne peut plus dire en 2024, on n'a pas la connaissance. Donc, en vertu de, on a la connaissance et du principe de précaution, il est clair que la santé publique devrait être commune, y compris avec les industriels. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des intérêts divergents ou un jeu à somme nulle en disant je te prends ça et je vais le perdre. C'est au détriment de la santé publique, c'est juste individuellement et collectivement inacceptable.
Gérald Kierzek, il y a peut-être des gens qui vous regardent ce soir qui disent « Bon, très bien, on a identifié l'ennemi, comment je fais ? Comment je fais pour... Donc, je change de poêle, je bois plus d'eau en bouteille. »
Oui.
Est-ce que je change mes cosmétiques? Est-ce que je dois lire les étiquettes? Est-ce que c'est marqué dessus? Est-ce que cet ennemi, le poison du siècle, disent les écologistes qui défendent ce texte à l'Assemblée, est visible? Est-ce qu'on peut s'en protéger?
Alors déjà, il n'y a pas que ce poison, c'est des poisons du siècle. Hein, parce qu'on peut... Non mais il y a les perturbateurs endocriniens, il y a tout ce qu'on veut. Donc globalement, on ne peut pas vivre dans une bulle et dans quelque chose d'aseptisé. Donc on ne peut pas être au niveau zéro. En revanche, en toxicologie, ce qui pose problème, c'est la dose. C'est la répétition, c'est l'accumulation, avec parfois d'ailleurs des potentialisations, c'est-à-dire que les produits vont se mixer, ce qu'on appelle l'effet cocktail, et ça va aggraver. Mais on peut quand même avoir un certain nombre de précautions. Les poils, exemple très concret, vous avez une poêle en téflon qui est abîmée, par exemple, il faut l'acheter. Parce que le fait qu'elle soit abîmée, vous allez prendre un certain nombre dans votre alimentation, à chaque fois que vous faites votre steak.
On prend une poêle en inox qui colle.
Vous allez prendre déjà des microparticules. Si le téflon n'est pas abîmé, encore
voilà,
ça va.
Oui.
Le téflon, ça réduit jusqu'à 260 degrés. Au-delà de 260 degrés, on sait que ça va libérer un certain nombre de composés. Donc là aussi, il y a des règles de bonne pratique et le mieux, vous le dites, c'est l'inox, c'est la céramique éventuellement, qui sont moins problématiques que ces poils avec ces
surfaces. Sur la question des étiquettes, sur la question de l'information aux consommateurs, on sait que c'est dangereux, on nous dit bon, c'est là, on en a besoin pour telle et telle raison. On a accès à cette information ou pas?
Non. Et c'est pour ça que, bien sûr, qu'il peut y avoir des choses un peu pratiques pour aider les gens. Mais en vérité, comme toujours, on ne peut pas mettre la responsabilité sur les consommateurs, les consommatrices. D'accord. C'est invisible à l'œil nu, ça n'est pas étiqueté. C'est partout dans l'environnement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est se mobiliser, chacun, chacune, y compris avec des contre-pouvoirs citoyens comme Foodwatch et beaucoup d'autres. On doit se serrer les coudes pour que les décideurs politiques aient enfin le courage politique d'agir et d'interdire ces substances. Et pas que dans l'alimentation, pas que dans les ustensiles de cuisine, etc. Partout, dans tous les secteurs. Parce que c'est utilisé dans tous les secteurs. Et tant que ça sera utilisé ou qu'on les prendra un par un, on ne sera pas protégé. Donc vraiment, on peut s'en passer. Bien sûr, comme toujours, quand on demande d'interdire quelque chose, accompagnons l'industrie. Bien sûr qu'il faut protéger les emplois, mais ayons des emplois sur des choses qui respectent la santé humaine et qui respectent le droit même des salariés à ne pas être exposés. C'est tout. Et ça n'est pas inaccessible. Il suffit d'avoir la volonté politique de le faire.
Ah, le problème,
et la
c'est
transition
que
industrielle.
Le problème, je me tourne vers vous, Philippe de Sertine. Est-ce qu'on a vu passer tout à l'heure une carte de l'Europe avec des installations qui produisent des PFAS en Europe? C'est un combat qu'il faut mener à l'échelle européenne. C'est intéressant, l'avocat qu'on a vu tout à l'heure avait donné un conseil à cet élu écolo qui mène ce combat au Parlement. Et il lui a dit surtout, on va te dire... Traite-le à l'échelle européenne, c'est ce qu'on m'avait dit moi à l'époque aux États-Unis, traite-le au niveau de l'ensemble du pays, ne fais pas ça, c'est le meilleur moyen pour enterrer le sujet. Est-ce que ce genre de dossier qui arrive au niveau européen n'est pas sûr d'être enterré?
C'est d'ailleurs l'argument qu'a utilisé le Premier ministre aujourd'hui, hein, en disant ça doit être au niveau européen qu'on va le traiter.
Mais c'est ça.
Je crois que vraiment par rapport à ça, par rapport à ce qu'on disait, le consommateur, quand vous dites mais je fais quoi, je fais comment, etc., n'oublions pas, en plus effectivement, plus probablement il est modeste, moins il aura de pouvoir d'achat pour acheter des bons produits. Hein, donc on va avoir sans cesse cette question qui va se poser. Donc là, il y a un rôle absolument primordial, on va dire pour le coup, là, de la puissance publique, de l'État. L'État doit faire quoi? Il doit d'abord, évidemment, derrière toutes ces questions, il y a la question de la science. Quand on dit, il y en a un qui dit ça, l'autre qui dit quelque chose d'autre, il faut absolument qu'on ait des agences scientifiques.
Il y en a une, hein, l'Agence européenne pour l'environnement.
Exactement. Et vous avez même aussi une agence européenne pour les produits chimiques, spécifiquement.
Elle a déjà remis un rapport en disant que c'était dangereux.
Voilà, c'est ça. Donc là, on doit s'appuyer sur ces types de rapports et sur des rapports, effectivement, dans lesquels, éventuellement, on prend en compte si vous avez un industriel qui dit, mais moi, j'ai un scientifique qui dit le contraire. OK, on prend les travaux. Ouais. Et on les traite. Et ensuite, à partir de là, évidemment, il faut prendre des décisions radicales. C'est-à-dire que c'est le rôle de l'État de dire... Parce que là, toujours pareil. Sinon, l'État, un jour, peut avoir des actions, ce qu'on a eu aux États-Unis, c'est-à-dire des actions communes, hein, de citoyens qui vont dire, mais vous n'avez pas fait, alors vous saviez. Mmh. Et là, effectivement, c'est probablement souvent ce risque qui va faire peur, on va dire. Faire peur aux décideurs, quels qu'ils soient, en disant les coûts peuvent être gigantesques. On voit d'ailleurs aux États-Unis que ça se chiffre en dizaines de milliards de dollars.
Le sujet, c'est que si Nicolas Thierry, ce député qui mène ce combat, ne l'avait pas lancé comme il l'a fait au Parlement, ce n'est pas des sujets qui sont forcément portés par le gouvernement. On attend dans ces cas-là le coup de pression, les lanceurs d'alerte, les enquêtes des journalistes.
Il y a le coup de pression et je voudrais revenir sur l'échelle européenne. Parce que vraiment, il y a systématiquement, on a tendance à opposer la décision nationale versus la décision européenne. Il faut les deux. Il faut absolument les deux. Il faut une décision européenne in fine. C'est ce qu'on a fait avec l'additif E171, vous vous en rappelez peut-être, le dioxyde de titane. On a commencé par obtenir une suspension, une interdiction sur le marché français. Hein, c'était à partir de 2020. Et on a continué à prendre notre bâton de pèlerin avec d'autres organisations européennes pour l'obtenir à l'échelle européenne. Parce que finalement, la réglementation européenne et la protection européenne sera la plus forte. Mais il ne faut pas les opposer. La France peut interdire d'abord et on peut ensuite escalader à l'échelle européenne. Et l'Agence des produits chimiques européenne a en effet mis un projet sur la table pour restreindre cette commercialisation des PFAS.
Est-ce qu'on peut dépolluer ? Il y a cette citation de Yann Amino, qui est chercheur à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, qui dit « Aucun écosystème n'échappe aux contaminations ». Il parle de ces PFAS. Est-ce que, imaginons, on prend conscience, imaginons, on change les règles du jeu, imaginons, est-ce qu'on peut dépolluer ? Est-ce qu'il y a des filtres qu'on peut utiliser ? Est-ce qu'on peut
dépolluer
faire machine arrière ?
Une partie. Alors, sur les écosystèmes marins, ça va être quand même très compliqué. Mais sur l'eau potable, qui est une question peut-être plus de santé publique que d'environnement, mais malgré tout, c'est important. Il y a des communes, des communautés qui traitent. C'est extrêmement coûteux, et c'est Camille Etienne qui le disait dans votre sujet, il va falloir qu'il y ait un principe de pollueur-payeur, il va falloir que ce ne soit pas le consommateur qui paye plus cher son eau, il va falloir qu'on trouve une solution. Mais ça existe à Rumi, là, en Haute-Savoie, près de Tefal. C'était en catastrophe, mais ils ont été obligés d'installer un système de traitement qui visiblement fonctionne. D'autres communes le font. En Ile-de-France, le CEDIF, donc un gros ensemble de traitement de l'eau qui propose une solution extrêmement coûteuse, c'est une agence qui a de l'argent, très bien, mais où il n'y a absolument aucun PFAS. Les PFAS ne passent pas.
Et pour comprendre bien la mesure de ce qu'est devenu ce sujet, on l'a compris aux États-Unis avec ce film, mais aussi dans le reste du monde, je voudrais que vous regardiez ce trailer, comme on dit, d'un documentaire qui est produit pour l'Australie et qui met en garde contre ce scandale sanitaire. Regardez.
People putting these chemicals in our environment.
From here to Australia.
PFAS chemicals have been used in so many different products over the last 70 years.
But scientists concluded that PFOS are likely to cause cancer.
It's intense, man. It's huge.
3M, the only company that made these chemicals, knew PFOS was toxic.
And getting into general population's blood.
And yet they told nobody anything.
All these kids were dying of cancer, basically on the doorstep of 3M's headquarters.
Generation after generation exposed in the name of profit.
We're talking about worldwide contamination.
This is so incredibly evil.
Le mal absolu. Et cette société 3M a été condamnée en tout début de semaine à payer 12 milliards d'amendes de dédommagement. Ça se passe aux États-Unis.
Alors, c'est un groupe chimique, 100 000 personnes, à peu près 95 000 emplois, là, pour le coup. Quand on regarde les comptes, c'est clair, ils ne pourront pas. Ils pourront pas payer. Ils sont déjà avec 6 milliards de pertes cette année. Ils n'ont pas la trésorerie pour ça. Donc, ça veut dire toujours pareil que quand on est en train de dire on les condamne, ils ont été acceptés. Mmh. Ça a été effectivement validé il y a quelques jours. La question après qui se pose, c'est de dire oui, OK, très bien, on part sur cette idée de sanction, mais ça ne va pas suffire. Là, ce qu'on évoque, c'est effectivement des retours en arrière sur plusieurs années. Ça signifie qu'il doit y avoir véritablement une mise en œuvre de moyens absolument gigantesques, bien au-delà. Vous voyez, dire simplement, bon, c'est les pollueurs qui vont payer, OK, on dit ça, ouais. Mais ça ne suffit pas. Donc, il va falloir aller bien, bien au-delà.
Ça veut dire quoi,
Ça veut dire qu'on doit faire converger une énorme partie de financement vers ce type, on va dire, de solutions, au moins d'ailleurs, au départ, des solutions sur l'eau, travailler là-dessus en disant comment on fait pour attirer du capital massivement là-dessus. Mmh. Et ça, c'est en fait un des grands, grands enjeux. Parce que la solution simple de dire c'est le pollueur qui va payer, là, très clairement, ça ne va pas fonctionner. Mmh. Et ça fonctionnera encore moins, on va dire, dans des groupes européens qui n'ont absolument pas les moyens aujourd'hui de s'en parler, ouais. On va dire, de continuer d'exister, mais simplement de corriger.
C'est un scandale sanitaire en devenir qui est devant nous, Gérald
quand
Kerzak.
On voit là, le trailer sur...
Qui est derrière nous quand on regarde 3M, ce qui se passe aux États-Unis.
On se dit, c'est derrière, alors c'est encore plus dramatique, parce que combien vaut une vie humaine hein, quand on voit les morts par cancer, etc. Ok, 12 milliards qui ne pourront même pas payer. Ouais. C'est dramatique, mais ça, j'allais dire, c'est passé. C'est une histoire juridique, judiciaire maintenant. Mais le problème, c'est que là, on est au point où on connaît les conséquences et on peut projeter, on peut modéliser ce qui va se passer. Et c'est là où c'est d'autant plus inacceptable sur le plan éthique ou sur le plan politique de dire, bah, finalement, on ne fait rien. Tout ça pour se retrouver finalement dans 15 ou 20 ans, où les preuves se seront encore plus accumulées et où là il y aura peut-être des class actions, comme on dit, des mouvements de groupes de gens, de familles qui auront perdu leur enfant ou de maladies neurodégénératives, où on va peut-être mettre en évidence là aussi ce lien, alors qu'en vertu encore une fois du principe de précaution, on aurait pu dès aujourd'hui, ou même dès hier, hein, je regardais les aliments contaminés, on sait, c'est les produits de la mer, c'est les œufs, c'est la viande, c'est l'Agence européenne qui le dit dès les années 2019-2020, donc on le sait maintenant. Mmh. Ce sujet, depuis les années 2000, il a commencé à émerger dans les milieux scientifiques, militants, ouais, etc. Donc on a maintenant 20 ans de recul, et on continue à attendre.
Mmh. En fait, une des choses qui va arriver assez vite, et c'est une bonne nouvelle, c'est qu'on va devoir faire un état des lieux de l'eau potable. Alors, j'ai l'air obsédée par l'eau potable, mais c'est
quand même... On va en parler dans un instant, c'est un énorme scandale aussi.
À partir de 2026, l'Union européenne va imposer à la France de tester, on teste l'eau potable pour tout un tas de choses, et de les tester pour les PFAS. Et là, justement, c'est là où on verra si, effectivement, on est vraiment au bord de la falaise d'un énorme scandale sanitaire, ou si, finalement... c'est à proximité des sites de production, puisque les gros scandales, c'était Arkema près de Lyon, c'était Solvay dans le sud. Donc Tefal, c'est un utilisateur, c'est pas un producteur. Est-ce que c'est à côté de ces sites industriels qui ont eu des accidents ou des choses, ou est-ce que c'est plus important que ça? Et ça, on va le savoir 2026. Bon, c'est demain, c'est peut-être un peu trop tard, mais on va le savoir
déjà
rapidement.
Un moment. Vous y ajoutez quelque
chose?
Pour
parler de scandale sanitaire, il faut prouver l'imputabilité, c'est-à-dire c'est l'exposition qui donne cette maladie. Et ça, c'est compliqué encore une fois, parce que ça va prendre du temps, des décennies, pour certaines pathologies notamment, et le principe de précaution, mais surtout les preuves qu'on a déjà sur certaines maladies, devraient suffire justement à prendre les mesures. Parce qu'après, ça va être une bataille juridique, judiciaire, de oui, mais attention, c'est multifactoriel, etc. C'est pas uniquement l'exposition au PFAS. Et puis après, il y a d'autres choses qui vont rentrer en ligne de compte, notamment sur l'eau potable. C'est-à-dire que tous les systèmes de filtration ne filtrent pas les PFAS aussi. Alors qu'ils sont vendus pour étant, je purifie l'eau qui sort du robinet. En réalité, la majorité des systèmes ne purifient pas contre les PFAS.
Oui. Là, en fait, il faut qu'on reprenne l'image globale. C'est-à-dire que ce système, il est fou. Non mais vraiment.
Allez-y, dites-nous pourquoi il est fou.
En fait, il y a suffisamment d'éléments scientifiques qui nous disent qu'il y a des risques avérés pour la santé.
Ne prenons pas le risque.
Donc déjà, pardon, mais on ferme la vanne. On ferme la vanne.
En fait, on ne peut pas. Non. C'est ce qu'on a compris aussi.
Bien sûr qu'on peut. Il faut une décision politique, alors mondiale, mais là, on va commencer par s'atteler à la France et à l'Union européenne. On a les leviers ici, on va faire David contre Goliath, mais on va y arriver parce que c'est l'évidence. Comment ne pas exiger une décision politique de protection de la santé publique en fermant la vanne? Fermer la vanne, ça n'est pas idéologique. C'est pragmatique. Et c'est en le faisant avec le temps nécessaire, secteur par secteur, en accompagnant les industries, en protégeant les emplois, bien sûr.
Comment vous l'expliquez qu'il n'y ait pas cette volonté-là? Vous traitez ce sujet-là depuis très longtemps, vous militez depuis très longtemps sur ces dossiers-là. Comment vous l'expliquez?
Eh bien, je vais vous dire très honnêtement, non seulement je ne l'explique pas, mais je suis même de plus en plus en colère. Parce que quand je vois des sujets comme les additifs à base de nitrite et de nitrate, d'accord, sur lesquels il y a des éléments scientifiques, sur lesquels on a une industrie avec des Herta, Fleury Michon et compagnie, qui se font une petite niche de marché, où là on est moins exposé au cancer, mais c'est plus cher. Et les plus pauvres, ils ont droit à garder un marché avec nitrite moins cher, alors qu'en fait on pourrait l'interdire et qu'ils sauraient faire en l'interdisant, c'est pas acceptable. Quand je vois qu'on se bat également sur du coup, les pesticides et que le glyphosate a été renouvelé pour 10 ans, alors que les éléments scientifiques sont là, ça n'est pas acceptable. Et quand je vois là que c'est évident, tous les éléments le disent, qu'on a une exposition à un risque de santé avec des cancers de plus en plus jeunes multicausaux, mais multicausaux, très bien, glyphosate, PFAS, on les connaît,
les perturbateurs endocriniens.
Allez, on va faire une action politique, je ne l'excuse pas,
C'est un dossier que vous connaissez très bien aussi, là on parle pas des PFAS, mais d'une bactérie. C'est un scandale sanitaire qui a conduit à la mort de 2 enfants, 56 personnes contaminées, et une marque, Buitoni, au cœur de ce qui est devenu le scandale des pizzas. Face à une affaire comme celle-ci, les enseignes passent en communication de crise et certaines, vous allez voir, ne s'en remettent pas. Une enquête d'Anne Maquignon, Juliette Perrault et David Lemarchand.
Attention aux pizzas surgelées Fresh Up de la marque Buitoni.
Plusieurs enfants, notamment, sont actuellement hospitalisés.
Les autorités sanitaires confirment un lien de contamination à la bactérie E. coli.
C'est une publicité dont Buitoni se serait bien passé. Un drame, des dizaines de victimes, dont 2 enfants décédés. Février 2022, la marque du groupe Nestlé est en pleine tourmente. En cause, les pizzas surgelées Fresh Up contaminées par la bactérie E. coli. Un scandale sanitaire est à la une. Le désespoir des familles concernées.
En fait, il se réveillait, le petit. Il pleurait, il hurlait. Ah ouais. Il disait « Maman, maman, arrêtez de me faire mal. » Et moi, je pouvais rien faire.
Nestlé mettra 3 semaines à rappeler ses produits. Florian Silnicki est expert en communication de crise.
Cette affaire, elle est révélateur d'un industriel qui commet à peu près toutes les erreurs de communication de crise et de gestion de crise. L'industriel, d'abord, il se met à douter du fait que la contamination est due à ces produits. Et au lieu de se dire « c'est peut-être nous », les consommateurs font face à un industriel qui dit « c'est peut-être pas nous ». Buitoni a manqué d'empathie du début à la fin de la crise. On a eu le sentiment que les dirigeants ont tenté de se cacher, de s'épargner la gestion de la crise.
Et pour Buitoni, le scandale ne s'arrête pas là. Des images glaçantes filmées à l'intérieur de l'usine qui fabrique les pizzas incriminées sont diffusées. Des aliments jonchent le sol. Le matériel n'est pas nettoyé. Et des vers se promènent sur la ligne de production. Réaction surprenante du groupe une semaine plus tard. Le directeur industriel se met en scène dans une vidéo. 9 minutes pour marteler un message. Tout est sous contrôle.
Nous avons un processus de contrôle sanitaire bien établi dans nos usines. Donc nous avons énormément de contrôle. Tous nos contrôles sont négatifs, sont dans les normes. Nous avons reçu à date, surtout 2022, aucune réclamation directe avec nos consommateurs. Donc ça rend le sujet extrêmement difficile.
L'usine est pourtant mise à l'arrêt pendant 9 mois, avant une nouvelle suspension, puis une fermeture définitive. 140 salariés sur le carreau. Dans une région touchée par le chômage, le dossier devient politique. Élus locaux et ministres se relaient auprès des salariés.
Je l'ai dit, je vous le répète, vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé et vous avez tenu.
Merci. L'usine a depuis été rachetée par un industriel italien. Mais le scandale a écorné la confiance des consommateurs. Les ventes de pizzas surgelées se sont effondrées de 20% en quelques mois. La marque Buitoni pourrait mettre des années à sortir de la crise.
Aujourd'hui, même les produits stars, ceux dont on nous a appris à l'école en marketing qu'ils étaient, c'est insubstituable, c'est-à-dire des produits tellement stars qu'on ne les retire jamais de son chariot, eh bien, ces produits sont aujourd'hui éliminés par les consommateurs si le consommateur pense qu'il y a un risque à les consommer. Lorsque vous avez casser la confiance avec le consommateur, eh bien, vous mettez des années, et cela coûte des millions d'euros d'investissement en communication, en marketing, en reconstruction du lien de confiance.
Les dizaines de victimes du scandale ont été indemnisées par Nestlé, mais un procès aura bien lieu. Une information judiciaire avait été ouverte en mai 2022 pour homicide et blessures involontaires.
Patrick Dudoux qui est inquiet, je le comprends. Encore de glaçantes révélations. Quand pourrons-nous être sûrs que ce que nous mangeons et buvons ne va pas nous tuer à petit feu ?
Jamais. Après, on peut avoir des réflexes simples, de bon sens, quand on dit manger moins de produits ultra transformés, parce que les pizzas qu'on vient de voir, ok, il y a de l'Escherichia coli qui peut vous tuer si vous êtes fragile, mais ça peut vous tuer à petit feu parce que c'est un produit ultra transformé, hyper salé. On a vu qu'il y avait des sucres cachés, etc. Donc, arriver à une plus de naturalité ou plus de simplicité dans l'alimentation, ça ne prémunit pas d'être exposé à certains produits qu'on ne voit pas et qui sont partout, mais enfin, ça diminue quand même un certain nombre de risques.
Mm-hmm. L'idée, c'est pas du tout de jouer sur les peurs non plus. L'idée, c'est quand même de mettre les points sur les i des responsables. Et quand, Foodwatch a porté plainte dans le scandale Lactalis, un géant, en 2018, quand il y avait les laits pour infantiles contaminés par des salmonelles. 2022, Buitoni, c'est Nestlé, je le rappelle. C'est pas parce qu'on s'appelle Nestlé qu'on est au-dessus des lois. D'ailleurs, on va reparler des eaux minérales après. C'est encore Nestlé.
On arrive avec les eaux minérales.
Un récidiviste. On a aussi porté plainte, du coup, contre Ferrero pour Kinder dans le scandale salmonelles en 2022. C'est encore un géant. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des géants.
Il y avait 22 enfants hospitalisés.
Exactement. Et donc, il y a quand même des géants de l'industrie agroalimentaire qui ont une mainmise sur le marché, qui déjà choisissent ce qu'ils mettent sur le marché, à quel prix, et qui en plus se croient manifestement au-dessus des lois et des règles. Ils sont censés, rappelons les choses, ils sont censés faire des autocontrôles et dès qu'il y a un risque pour la santé, alerter. L'État est censé les contrôler.
Le
bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé dans le cas Buitoni ? C'est parce qu'il y a eu plusieurs cas de contamination E. coli, dont je rappelle 2 enfants en effet morts, que du coup les santé qui se sont inquiétés, qui ont dû faire l'enquête et qui sont remontés jusqu'à Buitoni. Ça peut pas marcher comme ça.
Sur la façon dont les choses se sont passées, sur l'alerte, là, c'est intéressant.
Alors, soit l'industriel fait des contrôles bactériologiques, comme pour l'eau, on va faire que des contrôles bactériologiques, et dès qu'il y a une bactérie Escherichia coli qui n'a rien à faire dans ces pizzas-là, etc., est détectée, tous les lots doivent être bloqués, rappelés avec une alerte sanitaire. Soit c'est fait à l'inverse, et c'est manifestement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que vous avez un enfant en état grave, un deuxième, un troisième, mais imaginez. Il faut trouver le lien. Imaginez qu'il y en a un qui soit à Paris, l'autre qui soit à Montpellier, et l'autre à Toulouse, avant que nous, urgence, urgentiste ou réanimateur, on fasse remonter l'information. Et pour parler de toxi-infection alimentaire collective, parce que c'est ça, hein, c'est une infection alimentaire collective, il faut qu'il y ait plusieurs cas groupés. Et groupés, ça veut dire groupés en termes de lieux. Donc il suffit que ça soit dans des lieux différents pour que ça retarde l'information.
Sur ces entreprises qui se retrouvent dans la tempête, on a évoqué Seb qui a gagné une première bataille aujourd'hui, puisqu'on le rappelle que les ustensiles de cuisine sont sortis de l'interdiction des PFAS pour cette première lecture à l'Assemblée. Seb qui avait envoyé ses salariés manifester, on le rappelle, devant l'Assemblée nationale, expliquant qu'il n'y avait pas dans ces produits de PFAS mis en cause. Je résume, des entreprises qui se retrouvent comme ça dans une tourmente de communication, gestion de crise, on l'a vu, parfois certaines, alors là c'est Nestlé. Ouais. Mais certaines ne s'en relèvent pas.
Mais même Nestlé peut être confronté à une vague, à un tsunami tel qu'il ne s'en relève pas. Je crois vraiment que là, aujourd'hui, on est vraiment au cœur de la problématique que va être l'effondrement de votre réputation. Et l'effondrement de la réputation, en fait, vous détruisez toute votre valeur. Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on dit qu'il faut des années. Non, vous ne vous en relevez pas. Parce que vous n'avez plus aucun actionnaire, plus aucun financier, plus aucune banque qui va dire je vous prête, je vous apporte de l'argent. Ouais. Donc il y a cette idée de dire il y a un tel risque de perte, que c'est normalement ça qui doit être l'incitation. Parce qu'effectivement, on ne peut pas faire du contrôle partout. C'est extrêmement compliqué. Il faut vraiment celui qui produise ait cette responsabilité. Mmh. Et ça veut dire évidemment que, un, il faut qu'il ait en tête ce risque de perte monumental. Et il faudra de plus en plus, et c'est ça la grande idée de l'Europe d'ailleurs, dans ce qu'on appelle aujourd'hui les informations qualitatives, extra-financières, en disant, il faut que peu à peu vous créez de la valeur en disant, je suis vertueux.
C'était la question que je voulais vous poser, Philippe de Sertine. Est-ce que quand on est investisseurs, qu'on sait qu'une entreprise produit du PFAS, donc ces polluants éternels, ou qu'on s'est utilisé dans des produits qui peuvent avoir des risques pour la santé des consommateurs, puisque là vous l'avez dit clairement depuis le début de l'émission, quand on est investisseur, on peut continuer à investir, ou est-ce que ça, c'est en train de changer? Est-ce que dans les entreprises, à un moment donné, il n'y a pas quelqu'un qui lève le main en disant bah, va falloir qu'on arrête?
Ah, c'est même pas dans l'entreprise, c'est à l'extérieur, en le disant, on ne te finance plus. C'est simple, tu n'as plus d'argent.
Et ça se produit ou pas?
Oui, ça y est, ça se produit maintenant. Et l'Europe est très en pointe. C'est 2024, hein, c'est-à-dire c'est en train de commencer. C'est-à-dire qu'on exige un reporting, ce qu'on appelle enfin une représentation qui va être standardisée en disant, vous devez démontrer vos chiffres, ce qu'on appelle, voyez maintenant, la finance d'impact. C'est-à-dire on ne va pas chercher la rentabilité classique, on va chercher l'impact réel, par exemple, sur l'environnement. Et quand il est négatif, vous voyez aujourd'hui, je dirais, c'est même pas en fait parce que les gens veulent être vertueux, c'est qu'ils disent, du point de vue économique, je vais perdre énormément d'argent. Là, ce qu'on voit sur Buitoni, effectivement, si on regarde sur Nestlé, on disait, ils peuvent s'en relever, c'est pas dit. Vous pouvez plier une boîte comme Nestlé.
Et puis surtout qu'ils ont un autre dossier, un gros dossier, puisque c'est un rapport confidentiel qui alerte sur la pollution des eaux, notamment du groupe Nestlé. Malgré la filtration illégale, vous vous souvenez, on en avait parlé, révélé en janvier, un document de l'Agence nationale de sécurité sanitaire confirme la présence de polluants éternels dont nous parlons ce soir, dénonce les multiples constats de contamination d'origine fécale, chimique, microbiologique. Aubry Perrault, Romain Besnénou et Christophe Lopez.
Cette eau pure, naturelle, c'est ce que vous imaginez boire en achetant une bouteille d'eau minérale. Pas si sûr. Selon une note confidentielle de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, dévoilée aujourd'hui par Le Monde et France Info, la qualité sanitaire de certaines eaux minérales n'est pas garantie. Après la découverte de traces de PFAS, ces polluants dits éternels, de la bactérie tristement connue E. coli, ou encore de résidus de pesticides. Parmi les groupes ciblés, le géant Nestlé qui détient les marques Perrier ou Vittel. Il y a un mois déjà, le public découvrait que pour purifier son eau naturelle, l'industriel utilise en fait des traitements interdits.
Les gens pensent boire une eau meilleure que celle du robinet. On leur vend très cher, très 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 cher, 100 fois plus cher, 200 fois plus cher, pour boire finalement la même eau qu'au robinet. Ouais, c'est pas bien.
Nestlé filtre l'eau grâce à des rayons ultraviolets, du charbon actif et de la microfiltration. Des procédés normalement réservés à notre eau du robinet. Sur les bouteilles, aucune mention de ces pratiques, bien au contraire.
Ah bah c'est l'image de la naturalité, de la nature, de la pureté en fait, hein, de l'eau qui est extrêmement mise en avant.
Pour l'ONG Foodwatch, qui a porté plainte contre Nestlé et le groupe Source Alma, il y a non seulement tromperie du consommateur, mais urgence à retirer ses bouteilles de la vente.
Ce que ça montre, c'est qu'un gros groupe comme Nestlé est totalement dans l'opacité et l'impunité en fait, par rapport à ce qu'il est capable de mettre en place de lui-même des choses totalement illégales et en pensant que ça va passer et que le consommateur s'en rendra pas compte. Il semble que chez Nestlé soit prioritaire de vendre des bouteilles d'eau plus de s'assurer de la qualité sanitaire des eaux minérales qu'ils vendent aujourd'hui.
L'État a-t-il manqué à son devoir de contrôle ? D'après la journaliste qui a co-réalisé l'enquête, les services d'inspection ont été dupés pendant des années par l'industriel.
Ces traitements interdits étaient cachés dans les usines, notamment derrière des armoires électriques. Il faut imaginer que quand les contrôleurs des agences régionales de santé venaient pour contrôler la qualité de l'eau, eh bien Nestlé avait mis en place tout un système pour faire en sorte que les contrôleurs y viennent et puis ils prélèvent de l'eau pour aller la tester. Eh bien, ils pensaient prélever l'eau de la source directement. En fait, c'était de l'eau préalablement traitée. Donc, c'était un système très sophistiqué de tromperie.
Mais à partir de 2021, d'après la journaliste, le gouvernement était au courant, car l'entreprise avait été transparente avec lui.
Des représentants de Nestlé ont obtenu un rendez-vous confidentiel au ministère de l'économie. Ils ont plaidé coupable auprès du ministère de l'économie en disant « bah oui, on a recours à ces traitements, mais on n'a pas le choix parce que notre eau est contaminée ». Là, le gouvernement aurait dû peut-être saisir la justice. C'est en tout cas ce que prévoit le code de procédure pénale dans ce genre de situation. Ça n'a pas été fait.
Après ces révélations, le gouvernement dit vouloir laisser le temps à la justice qui vient d'ouvrir une enquête. Contacté, le groupe Nestlé reconnaît avoir traité son eau minérale, mais assure que cette pratique est désormais révolue.
Sous le contrôle des autorités, Nestlé Waters a ainsi mené une transformation d'ampleur de son activité d'eau en bouteille, visant à une stricte conformité avec le cadre réglementaire applicable à l'eau minérale naturelle en France.
L'affaire devient politique. Le groupe socialiste au Sénat demande des comptes au gouvernement, soupçonné de complaisance envers les industriels.
Les industriels, quand ils se font taper la main dans le sac, il faut qu'ils puissent être sanctionnés. Mais le problème, là, c'est la faiblesse de l'État lorsqu'il y a des manquements à la réglementation. Si à chaque fois qu'il y a un manquement à la réglementation, les industriels savent qu'ils peuvent faire un deal, entre guillemets, avec le gouvernement, et bien dans ce cas-là, la réglementation, elle ne vaut pas grand-chose.
Alerté par les pratiques du numéro 1 mondial de l'eau minérale, la Commission européenne annonce lancer un audit. Les représentants français sont d'ores et déjà invités à s'expliquer le 30 avril prochain devant les autres États membres.
Émilie Torjemen, sur c'est un scandale de l'eau ?
Oui, alors là, on est sur un double scandale. Et d'ailleurs, bravo aux confrères du Monde, oui, et de France Info, il faut le dire. Premier temps, en janvier, ils révélaient que l'eau minérale naturelle, donc qui est censée être la plus belle réserve d'eau disponible en France, des nappes phréatiques
plus
très profondes, très pures, minéralisées, avec des oligo-éléments, tout ça parfait, est en fait filtrée, voire diluée avec de l'eau du robinet. Ça, c'est l'acte 1 qui laissait présager de l'acte 2. Donc aujourd'hui, acte 2, ces mêmes confrères nous expliquent que certaines ARS, certaines, il va falloir voir pour
l'agence régionale de santé.
Agence régionale de santé ont demandé des études inquiets de ces histoires de filtration et on a donc découvert qu'il y avait des contaminations. Donc matière fécale, PFAS dont on parlait et des résidus de pesticides. Ce qui pour la journaliste d'environnement que je suis est aussi atterrant, ça veut dire que ces réserves qui sont très profondes
sont déjà contaminées.
Sont aussi contaminées.
Donc là, on a Nestlé, un récidiviste, donc, du pas vu, pas pris, c'est-à-dire qu'on peut faire n'importe quoi tant qu'on n'est pas pris la main dans le sac. Rappelons effectivement au niveau du système, toujours la vision globale, donc on a une industrie agroalimentaire qui pollue largement les sols, les nappes phréatiques jusqu'au plus profond, et qui, quand ils découvrent que leurs eaux censées être minérales et pures sont contaminées par des PFAS et des résidus de pesticides, trouvent que le plus malin à faire, c'est en plus de faire une action illégale en utilisant des filtres illégaux. Donc là aussi, il va falloir arrêter de penser qu'on peut faire tout et n'importe quoi dans l'impunité. C'est pour ça qu'on a
là, le problème, c'est la publicité mensongère ou c'est le problème pour la santé ?
Non, alors là, le premier.
C'est le côté de duper les consommateurs avec de l'eau qu'on vend chère en bouteille.
En fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes. Donc, le premier problème, c'est une fraude massive. Et quand on dit fraude, c'est effectivement c'est tromperie, c'est volontaire, c'est avec un gain économique. Voilà. Donc, c'est une fraude. Voilà. C'est pour ça qu'on a porté plainte. Il y a 9 infractions. Maintenant, la question, là, ce que les collègues ont révélé, enfin les journalistes ont révélé aujourd'hui, les enquêteurs, ce qu'ils ont révélé, c'est que l'ANSES, l'Agence nationale d'évaluation des risques en France, a quand même envoyé une note en octobre 2023. Donc, il y a plusieurs mois déjà à l'État, disant que la qualité sanitaire n'était pas garantie. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a une directive européenne très forte. Là encore, sur le papier, l'Europe nous protège. Il faut que ce soit respecté. s'il y a un risque pour la santé, le moindre, qui est identifié soit par l'entreprise, soit par l'État, il doit se passer quoi? Il doit se passer une suspension de la production, et il doit se passer une information des consommateurs, des consommatrices, et il doit se passer un rappel des produits. Et là, il n'y a rien eu. Et on ne sait même pas ce qui s'est passé à l'échelle européenne. Donc Foodwatch a écrit à la Commission européenne, on a reçu aujourd'hui leur réponse. Ah. Ils vont faire un audit du coup, de ce qui s'est passé en France et dans les autres États européens. Il y a une réunion le 30 avril des États européens. Chacun va devoir s'expliquer de ce qui se passe.
On aurait dû informer nos amis européens
ça s'appelle
de ce qui se passait.
RASFF, c'est un système d'alerte officiel qui aurait dû être déclenché.
Il y a une question qui est posée par Catherine en Côte d'Or. Merci, je me la pose aussi du coup. Alors que choisir à la fin? De l'eau du robinet, de l'eau en bouteille?
Ce que ça montre, c'est qu'il n'y a aucune eau naturelle, malheureusement, qui est non contaminée. Tout est contaminé, y compris les nappes les plus profondes, etc. Donc ce qui va être important, c'est évidemment qu'il n'y ait pas de fraude et qu'il y ait une transparence, parce que ça c'est important en termes de consommation et de confiance avec les consommateurs, mais surtout ce qui est important, c'est que les analyses finales, à la clé, ce que je vais boire, il faut que ces eaux soient propres à la consommation. Et pour répondre à la téléspectatrice, moi je pense qu'encore une fois, il faut varier, ne boire qu'un monoproduit, que de l'eau du robinet ou que de l'eau
bouteille
en plastique,
marque,
etc., ou d'une même marque, c'est pas la bonne solution. C'est-à-dire que dans le doute, il vaut mieux varier finalement, et puis on peut rajouter des filtres, encore une fois il faudrait des filtres qui soient anti-PFAS,
on va apprendre que les filtres PFAS, c'est pas bon,
etc. En tout cas c'est marqué dessus si ça filtre les PFAS ou pas. Il y a des systèmes d'ozonothérapie ou de filtration UV, etc., qui filtrent certains composés mais pas d'autres, donc il faut varier les apports et utiliser quelques filtres.
Allez-y à Catherine, mais ça, c'est
allez-y,
une réponse
allez-y.
Personnelle puisque ça n'est pas plus sûr, ça coûte 50 fois plus cher, c'est essentiellement du plastique. On pas Perrier, mais les autres. Moi, je dirais buvez de l'eau du robinet.
Buvez de l'eau du robinet.
C'est et surtout arrêtons de polluer. Là encore.
Alors.
Ah oui, mais comme consommateur.
Fermons les vannes.
Philippe de Sertine sur ce sujet de l'eau et sur la responsabilité des entreprises, qui visiblement, ce que disent ces enquêteurs, qui savaient, qui dissimulaient et qui continuaient.
Oui, même les agences régionales de santé, ce sont celles notamment là où justement sont ces entreprises, c'est-à-dire qu'ils puisent, donc ils se sont inquiétés en disant mais en fait c'est sur notre territoire. Là je crois qu'effectivement on arrive à des questions qui entre parenthèses aux États-Unis ont été tranchées de façon forte il y a plusieurs années sur d'autres affaires en disant il doit y avoir à ce moment-là une responsabilité non pas globale de l'entreprise parce que ça c'est trop vague et finalement ça se dilue, mais une responsabilité du dirigeant au moment où ça se passe. Quand on évoque le fait que par exemple une entreprise va déjouer les contrôle, hein, ce que l'on évoquait, là, forcément, il doit y avoir une chaîne de responsabilité qui est incriminée. Et les États-Unis vont très loin en disant, dans ce cas-là, responsabilité pénale du dirigeant en place.
Pénale.
Ça veut dire pénale, ça veut dire que, et, y compris quand vous avez des personnes qui meurent aux États-Unis, on a été là en disant, c'est un crime. Donc, vous avez, je dirais, exactement les peines criminelles, c'est-à-dire jusqu'à 25, 30 ans de prison. À l'époque, on avait même eu des États qui disaient, nous, c'est peine de mort, en disant, le dirigeant d'une entreprise, il peut être condamné. C'est que, d'ailleurs comme ça qu'on avait dit, non, faut peut-être pas qu'on aille trop loin, parce que les entreprises vont quitter les pays où il y a la peine de mort. C'est-à-dire, c'était vraiment, vous voyez, dans une logique économique, mais en disant 25 ans un crime, 25 ans le dirigeant, et ça s'est fait. Donc là, vous avez vraiment cette question en disant, l'entreprise, c'est quelque chose qui semble trop vague, c'est un agrégat humain, avec des dirigeants qui ont une responsabilité, et là, évidemment, on est toujours dans la charge de la preuve, en disant, soit vous avez quelqu'un, à un moment donné, un maillon qui a été coupable, et il faut l'identifier, ou alors, c'est effectivement l'ensemble de la chaîne de direction qui a été coupable. Et dans ce cas-là, elle est coupable en tant que personne et pas forcément en tant qu'entreprise.
Karine Jacquemart, on l'a vu aussi dans d'autres affaires qu'on a évoquées ce soir. Vous disiez que ce n'est pas aux consommateurs de porter la responsabilité. Ce sont des décisions à prendre au niveau national ou au niveau européen pour interdire ces produits. C'est une chose. Mais à un moment donné, est-ce que le choix du consommateur n'est pas une arme de destruction massive?
À condition qu'il ait accès à l'information. Enfin, quand on parle de PFAS, il n'a pas accès à l'information. On a lutté pendant des années. On a obtenu une réglementation européenne contre la contamination par des huiles minérales. Il n'avait pas accès à l'information. C'est des laboratoires. Regardez la désinformation sur tous les emballages qu'on passe notre temps à dénoncer avec la shrinkflation, vous savez, la quantité qui diminue. Donc, en fait, encore faut-il redonner du pouvoir aux consommateurs, aux consommatrices. Et donc, quand il peut...
Il est de plus en plus informé, notamment sur les emballages, avec les Nutri-Score, avec ce genre de choses.
Oui, mais non, en fait, parce que le Nutri-Score, on n'a pas encore réussi à le rendre obligatoire en Europe. On y travaille parce qu'il y a tellement de désinformation. Vous savez, parfois, on dit aux distributeurs et aux marques, on leur dit à la vente de l'emballage, ça serait bien que vous mettiez un truc un peu clair. Par exemple, shrinkflation, quand vous réduisez la quantité mais que vous augmentez. Vous savez ce qu'ils nous disent parfois ? Il n'y a pas la place. Et nous, on leur dit quoi ? Enlevez toutes vos allégations qui en fait sont n'importe quoi. Et juste sur les entreprises, vraiment, il faut casser le climat d'impunité. C'est très sérieux. Ces scandales alimentaires, on peut les éviter. On ne répétera jamais assez. Il faut redonner des moyens à l'État pour faire des contrôles et il faut des sanctions dissuasives et de la transparence.
C'était la question que je voulais poser à Gérald de Kerzec. Dans des dossiers comme celui-ci, est-ce que le ministère de la Santé, à la place que vous êtes, à la place qui est la vôtre, le ministère de la Santé, les autorités, à votre avis, s'emparent de ces sujets avec force ? Est-ce que dans le passé, vous avez vu...
Les agences régionales de santé, qui sont les émanations régionales du ministère de la Santé, alors ça dépend des directeurs ou des directrices régionales, mais globalement, quand il y a des sites de production, ils vont aller faire des contrôles, parce que c'est de leur responsabilité, pour le coup. Après, la grosse difficulté, c'est qu'on est sur un temps qui est retardé. C'est-à-dire que les conséquences sanitaires, elles seront peut-être dans 15 ans, 20 ans ou 30 ans, avec toujours ce problème de causalité, d'imputabilité. Donc finalement, est-ce que c'est plus le ministère de la Santé ? Je ne suis pas sûr à date, puisqu'il n'y a pas de problème sanitaire là tout de suite, dans le sens où les gens ne sont pas malades.
Ouais.
En revanche, d'autres ministères ou une responsabilité de l'État plus globale.
Mais parce qu'aujourd'hui, là, on a parlé beaucoup de la justice, des associations, des journalistes, mais assez peu de la façon dont le politique... Alors, il y a des députés qui font un travail à l'Assemblée, on en a parlé sur l'histoire des PFAS, mais est-ce que le ministre, est-ce que à cette échelle-là, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent se mettre en place ?
J'ai souvent dit ou écrit qu'on était dans un pays qui se tiers-mondisait en termes de santé. C'est-à-dire que les gens, ils sont à un stade où ils n'ont plus de médecin généraliste, ils attendent des heures aux urgences, ils n'ont plus accès aux soins. Donc, vous voyez, le quotidien, c'est un peu comme le problème économique, les gens, avant de penser à la fin du monde, ils pensent à la fin du mois. Bah, c'est la même chose. Ils ont un problème de santé, ils n'arrivent pas déjà pour leur arthrose ou leur infarctus à être soignés. Ouais. Donc, les sujets qui auraient un impact sanitaire, vous voyez, le ministre, il a deux chats à fouetter, ils sont moins prioritaires. Ouais. Juste pour répondre très vite sur la téléspectatrice qui dit, mais qu'est-ce que je peux faire ? Parce que l'idée, ce n'est pas d'inquiéter. Il y a des choses très simples déjà à faire. Moi, il y a deux sujets actuellement moi, qui m'inquiètent. C'est les vapoteuses, par exemple. Les vapoteuses qui sont censées être dans le cadre d'un sevrage tabagique. Super, il vaut mieux vapoter plutôt que de fumer une cigarette. Mais l'idée, c'est d'arrêter la vapoteuse. Parce que tous ces produits à l'intérieur, qu'est-ce qu'on y met ? Quel est l'impact ? C'est en contact direct avec la bouche, on va l'inhaler, etc. Je pense que ça c'est un réflexe de bon sens de consommateur.
Il n'était pas question de les interdire, notamment pour les mineurs.
Mais il ne faut pas que les consommateurs se disent « Ah bah oui, il y a même des gamins qui se mettent à fumer ce genre de choses. » Deuxièmement, on a entendu parler il y a quelques semaines des Sephora Kids, vous savez, ces gamins qui se badigeonnent de cosmétiques, etc. Ça, c'est un principe de bon sens et de précaution évident, c'est arrêter de se badigeonner de crème quand on est un enfant, quand on est un nouveau-né. C'est la même chose avec les lingettes pour nettoyer, etc. Ou quand on est une femme enceinte, parce qu'on sait que c'est là où on est en développement et que c'est le plus à risque. Donc vous voyez, il y a quand même des petites choses comme ça qui sont de l'ordre individuel, et ça ne remplace pas, bien évidemment, toutes les mesures collectives et politiques, mais qui sont du bon sens et de la précaution.
Cédine, nous revenons maintenant à vos questions. Cette question de Fatima en Seine-Saint-Denis. Tant que le revêtement anti-adhésif des poêles et des casseroles n'est ni rayé ni abîmé, y a-t-il un risque pour la santé ?
Et on le voit, le problème, c'est qu'on ne le voit pas. C'est-à-dire que, évidemment, si vous avez un revêtement qui est complètement abîmé, là, il faut jeter, il ne faut pas se poser de questions. Le problème, c'est que le téflon, s'il a été porté à plus de 260 degrés, il y a des composés qui vont être émis et qu'on ne va pas forcément voir. Les micro-rayures et les micro-abrasions, etc., ne vont pas être vus non plus. Donc, à l'œil nu, ça va être très compliqué.
Le groupe SEB est-il totalement transparent quant aux produits utilisés pour la fabrication de ces poêles ?
Oui. Alors, pour le coup, ils disent effectivement quel est le PFAS qu'ils utilisent, PFTE, en disant celui-ci a été démontré comme n'étant pas nocif. Le débat qui s'est instauré, c'est en disant est-ce qu'il est nocif au moment de la production. C'est ça vraiment.
D'accord.
Et le problème effectivement qu'on peut avoir notamment sur les usines. Donc là,
SEB se défend en disant, à raison d'ailleurs, qu'ils avaient arrêté le PFOA, donc qui a été interdit en 2020, qu'ils l'ont arrêté en 2012. C'est vrai et ultra vrai. Maintenant, sur le nom de la marque, donc du produit, c'est Anona qui est utilisé. Il y a des gens qui s'inquiètent. Et la question, c'est exactement pour ça que certains réclament d'interdire tout d'un coup. C'est, en fait, on ne sait pas.
Oui, c'est ça, si on les a interdits les uns après les autres.
SEB dit que c'est inoffensif, c'est possible, mais en fait, on n'en sait rien.
Donc, en fait, il y a eux de le démontrer.
Exactement. Ah, oui. Rappelons que la charge de la preuve, car on a la chance d'avoir un principe de précaution dans les traités européens et dans la Constitution française, que beaucoup aimeraient bien dégager du revers de la main parce qu'ils le voient comme un frein au commerce et à l'industrialisation, n'empêche que c'est fait pour protéger la santé publique. Donc, ce principe de précaution, il fait que la charge de la preuve, c'est sur l'industriel qui doit montrer que sa substance est inoffensive.
Mais imaginons si on l'interdisait en France, on importerait des poils pas chers. faire, d'autres pays qui n'interdisent pas ces...
Non, parce qu'on peut faire comme avec le E171, on peut mettre des mesures de sauvegarde, en fait. Donc on peut très bien interdire la production et l'utilisation d'une substance en France, et on peut l'interdire sur le marché français, et à terme, à chaque fois, à l'échelle européenne. Donc si on l'interdit sur le marché européen, on va aussi en interdire les importations.
Quelle est notre priorité ? La santé ? L'emploi ou le profit dans le Val-de-Marne.
L'équation fonctionne, c'est-à-dire qu'il faut arrêter d'opposer les choses. On l'a dit pendant l'inflation alimentaire, l'équation elle est simple. Les agriculteurs, les agricultrices, les consommateurs, les consommatrices, les entreprises au milieu, tout le monde peut fonctionner en préservant la santé.
Non, mais c'est un intérêt commun, c'est vrai que c'est inadmissible d'avoir le chantage dans l'emploi qu'on a connu. Alors là pour le coup, on tape beaucoup sur l'industrie pharmaceutique avec les médicaments, ça a été pendant des années un chantage à l'emploi avec des médicaments qui étaient néfastes. Ça, il y a eu un effort comme ça de nettoyage des vertus pour garder de la valeur, justement pour garder de la confiance, où tout le monde s'est un peu mis autour de la table et en arrêtant ce chantage à l'emploi. Je pense que là il faut, en termes de valeur, la valeur d'une entreprise, c'est pas uniquement des bénéfices, de la finance pour la finance, c'est aussi de la valeur éthique, c'est tout le côté et sujet de RSE, cette responsabilité sociétale et environnementale. Ben on y est, ça doit créer de la valeur, et donc ça doit être convergent. L'intérêt, il est commun entre les citoyens, donc la santé publique, et les dirigeants de notre y compris l'économie.
Et Philippe de Sertine, président du comité 21, est d'accord avec ça.
Absolument. Mais juste pour donner une statistique qui va redonner, non pas le sourire, mais peut-être faire un tout petit peu moins d'angoisse. Oui. 2023, pour la première fois, les hommes français ont 80 ans d'espérance de vie. Pour la première fois, les femmes ont 85,4. On a eu une augmentation de 0,6 sur l'année 2023, la plus forte qu'on ait jamais eue.
Mais pas en bonne santé.
Bonne nouvelle. Moi, j'apprends. Allez. Y a-t-il des PFAS dans l'eau du robinet partout en France ?
Probablement pas. Voilà. On n'en sait rien. D'ailleurs, je vais retirer le probablement pas. C'est mon optimisme qui vient de parler. On ne sait pas.
D'accord.
Y a certains endroits où ça a été testé et où on en a trouvé, et on les a testés là où on pensait en trouver.
Ce ne serait pas ça le point de départ ?
Mais évidemment, il faut généraliser, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, il faut absolument généraliser les tests pour avoir une vue complètement transparente de l'état de nos eaux du robinet.
Et pas que sur les PFAS.
Sur les
perturbateurs endocriniens, tout le monde s'étonne actuellement. Moi, les collègues pédiatres s'étonnent des pubertés précoces. C'est un sujet qui est... Toutes les personnes qui nous regardent voient bien que la puberté, elle arrive plus tôt qu'il y a quelques années ou quelques décennies. C'est clairement lié à des perturbateurs endocriniens et probablement lié à notre alimentation et à l'eau qu'on consomme. Donc ça veut dire qu'il faut que l'eau que je consomme, qu'elle soit dans une bouteille ou qu'elle soit l'eau du robinet, elle soit absolument écartée et nettoyée de ces PFAS, de ces perturbateurs endocriniens, de tout ce qui peut perturber mon environnement. Mais on peut aller plus loin. Les bougies que vous mettez, c'est pareil. On sait que c'est un facteur de pollution intérieure.
Les bougies parfumées.
Mais bien sûr, on parle de la pollution extérieure et les micro et les particules fines, etc., qui sont un facteur majeur de maladies cardiovasculaires, de cancers et de maladies neurodégénératives, Alzheimer, toutes ces maladies-là. Ouais. Mais la pollution intérieure, c'est pas la peine d'en rajouter. Donc c'est pas la peine d'aller faire brûler des trucs, de l'encens, des bougies, etc.
Je peux donner une bonne nouvelle ?
Allez,
je suis d'accord.
C'est vraiment
je le sens comme vous. Alors c'est mon optimisme aussi, mais c'est aussi mon enthousiasme. J'ai une excellente nouvelle en fait pour toutes les personnes qui nous regardent. C'est que les solutions sont totalement à portée de main, vraiment. Ouais. Et c'est pour ça qu'on se bat. Moi, je me bats pas. J'ai autre chose à faire que de me battre contre des moulins à vent. Ouais. Donc la raison pour laquelle on se mobilise, c'est que les solutions sont totalement à portée de main. On n'est pas obligé d'accepter l'inacceptable. On n'est pas obligé de tolérer qu'il y ait des contaminations totalement globales sans les arrêter. On peut absolument, en forçant un petit peu la main, manifestement, ils ont besoin qu'on les y contraigne un petit peu, nos décideurs politiques, on parlait des ministères, de faire passer la santé publique au milieu. Ça n'est jamais au détriment des entreprises. Il peut y avoir des profits de l'entreprise, mais la santé publique doit être au milieu. C'est à portée de main, donc faisons-le.
Régis, à Côte d'Or, l'eau en bouteille et l'eau du robinet sont toutes les deux polluées, n'est-ce pas un scandale monumental ?
Si.
C'est. Boire du vin rouge bio, avec modération, est-ce moins risqué que de boire de l'eau ? Alors là, comment
peut répondre sur le joker ? C'était un bon exemple dans les années 60 où il fallait sauver la filière viticole, où on a dit il y avait des polyphénols à l'intérieur du vin rouge, et un verre de vin rouge, c'est bon pour la santé, ça débouche les artères. En fait, les études ont été refaites quelques années après, on s'est aperçu qu'on mélangeait tout, des anciens alcooliques notoires avec des gens qui n'avaient jamais bu, et qu'en fait, zéro alcool, c'est mieux que 2-3 verres par jour, et c'est mieux que, évidemment, plus que ça.
Donc, une dernière question pour vous, à quoi sert l'ANSES, l'Agence nationale de santé, si le gouvernement n'écoute pas ses recommandations et ses alertes.
De sécurité, environnementale et santé. En tout cas, elle fait des analyses, elle fait des rapports, ils ont pointé du doigt un certain nombre de choses. Après, ce sont des agences indépendantes, c'est pas eux qui ont la main politique.
Eh ben merci à vous tous. On a terminé merci sur quelques bonnes nouvelles. On a essayé. Demain, vous retrouvez Axel de Tarlé en direct à 17h30 pour un nouveau C'est dans l'air.
Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.